Oscar Peyre, La vieille maison, roman traduit du romanche par Walter Rosselli, aux éditions Plaisir de lire, 2013. Il y a un enterrement dans le village au fin fond de la vallée. On a vu des gens habillés de noir arriver avec le quart de midi, une dizaine de personnes, peut-être des gens de la famille ou des connaissances du défunt. Le village n'est pas très grand, une soixantaine de maisons, en partie encore au toit de bardeaux. Des granges en bois sombre entre les maisons. En haut, les avant-toits se touchent au point qu'on pourrait passer de l'un à l'autre. Devant les maisons, ça et là, une pile de bois. Derrière, un jardin clôturé, un tas de fumier, des poules parmi les plants d'oseille. Presque rien n'a été rénové, quand bien même il le faudrait. On voit des façades défraîchies, fissurées, des volets de travers. Pour rénover, il faudrait de l'argent, et d'argent, la plupart n'en rêvent même pas. Riches ne le sont que deux ou trois, Lem, par exemple, le tenancier de la Stella, Kurdin Tom, et encore un banquier de Zurich qui passe les étés ici avec sa femme. Par ailleurs, le lieu est pittoresque. L'église, avec le cimetière et le clocher roman, à l'extérieur du village, sur une colline. On vit un peu à l'orée du monde, enfermé entre montagnes et forêts. Pour l'instant, encore peu de trafic. C'est la maison familiale qui est au centre du roman. C'est l'enjeu du roman. Et Chasper, le héros du roman, le dit clairement, sans pathos, à son ami Christian. Christian lui propose de venir habiter chez lui et sa mère. Ils ont assez de place, ils pourraient sans autre manger chez eux. Aucun problème, au contraire, ce serait bien plus agréable pour lui et pour sa mère. Chasper dit, « Tu es un cher ami, Christian, je ne l'oublierai pas, mais pour moi, il ne s'agit pas d'avoir un logis. Je pourrais même vivre sous un arbre ou dans une grotte. Mais tu sais, c'est que je ne voudrais pas perdre cette maison. Le reste n'est pas important. C'est curieux. Jusqu'à maintenant, c'était une maison comme toutes les autres. Mais maintenant que je dois m'en aller, elle devient de plus en plus belle. J'ai grandi ici, c'est comme une partie de moi-même. Et si mon frère revenait un beau jour, j'aimerais qu'il puisse y entrer. » C'est tout simple. Et tout simple aussi le passage consacré à Johanna, son grand amour. Johanna, il l'aimait bien, depuis toujours, déjà autrefois, lorsqu'elle était une jeune fille juste sortie de l'école. Johanna, c'était son grand amour. Elle était entrée en lui comme un soleil de mars. Si c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul grand amour dans la vie, alors ce fut elle. Avec d'autres jeunes filles, c'était venu et passé. Avec elle, c'était resté pour toujours. Elle était partie en Suisse romande durant plus d'un an, puis elle était revenue. Elle parlait français. Parfois, ils se voyaient, par exemple quand il y avait un bal. Lui, alors déjà dans sa trentaine, elle, une jeune fille de 18 ans. Ils avaient même dansé. Au moment du Damenwalzer, c'était carrément elle qui venait l'inviter. Une jeune femme aux yeux foncés, parfois vive et rieuse, avec ses caprices, parfois taciturne et l'air absent. Il pensait nuit et jour à Johanna, imaginant son visage, ses formes. Entre-temps, hélas, elle avait été demandée par un autre, c'est-à-dire par Arnold, fils d'un entrepreneur 10 ans plus jeune que Chasper. Plus jeune et surtout bien plus riche. Presque à la fin du livre, on apprend que Chasper n'est pas choisi par une quelconque commission pour exploiter un lot d'arbres qui allait lui rapporter pas mal d'argent. En quelques lignes, Oscar Peyre exprime ce que ressent Chasper. Il sent un grand besoin de faire un geste radical, Par exemple, se déshabiller et sauter dans cette fontaine au milieu du village. Se mettre à jeter des pierres et à casser tous les réverbères sur le chemin. En ce moment, il comprend enfin qu'on puisse avoir envie de tuer. En quittant le village, de rechef sur cette route principale, il se sent curieusement léger, comme s'il avait perdu sa substance. Il est un peu étourdi, il s'arrête et s'appuie à la clôture. Le paysage tourne légèrement. Soudain, tout lui semble impossible, grotesque, absurde. Il peut faire ce qu'il veut et tout est un échec total. Il maudit sa vie, il maudirait même le Seigneur. Quelque chose le secoue jusqu'au fond de lui-même, mais il ne sait pas si ce sont des sanglots ou un rire dérangé. La vie est d'une cruauté absolue et la sage-femme de la région, sage-femme un peu voyante à ce qu'on dit, la résume la vie en quelques mots cinglants. Jasper lui raconte ce qui s'est passé. Il s'était tellement réjoui de ce lot de forêt et maintenant ils l'ont tout simplement éliminé. Il est sûr que l'em y est pour quelque chose.
Mais oui, celui-là, c'est un mauvais type. Lui et ses complices. Les humains sont des charognes. J'en ai mis au monde plusieurs. Je les ai lavés et emmaillotés. D'abord, ils sont émouvants comme s'ils descendaient du ciel. Puis, ils grandissent et deviennent des charognes.
Tous ?
Non, pas tous. Il y en a aussi de bons. Par exemple, ton ami Christian ou ton oncle Émile. Qui est mort bien trop tôt, la femme de Fridolin, là-bas, à Saleun. Ou alors l'Allemande, celle qui vient parfois chez toi. Mais il y a beaucoup de charognes, des vipères. Ou alors, ce sont des gens sans visage. Chez les humains, le bon Dieu a perdu son temps. Ou alors c'est un autre qui s'en est mêlé et qui a fait du gâchis.
Tu ne sembles pas, comme qui dirait, très croyante.
Mais mon cher, on ne sait jamais. Le ciel est parfois tout près, parfois très loin. Avec le Seigneur, tu ne deviens pas plus malin. Les pauvres pâtissent toute leur vie, tandis que les plus grands salauds vivent tranquillement jusqu'à leur dernier jour.
Et puis la vieille sage-femme, les mains sur sa canne, va, sans prétendre jouer les voyantes, elle va peut-être déchiffrer l'avenir.
On voit que le temps passe et on finit avec nous et avec tout ce que nous possédons.
Tu entends aussi avec ma maison ?
Mais oui, ta maison aussi. Tout va si vite. Pendant que nous discutons ici, nous glissons petit à petit en bas de la pente. Ta maison aussi, un jour, disparaîtra. Un jour, il ne restera plus que des murs noircis. Peut-être même bientôt.